Chapitre 26. Sally Daera. Bien qu'il fût avachi sur sa selle, l'aura bleue et or de la grandeur scintillait par intermittence autour de la tête de Loghain. Ces derniers temps, le phénomène se produisait de plus en plus souvent, et Mine aurait été bien incapable de dire pourquoi. S'abandonnant à l'amorosité, Loghain ne se donnait même plus la peine de lever les yeux des herbes que son étalon noir piétinait en traversant les collines boisées qui s'étendaient à perte de vue devant eux. Les deux autres femmes chevauchaient un peu en avant. Comme à l'accoutumée, Siouan avait l'air atrocement mal à l'aise sur le dos de Bella. Et Léane, en bonne cavalière, guidait sa jument grise avec les genoux plus qu'en usant des rênes. Saillant du sol recouvert de feuilles de la forêt, un ruban de fougère trop rectiligne pour que ce soit naturel témoignait qu'une route était jadis tracée ici. Comme la fougère desséchée, les feuilles mortes crissaient sous les sabots des chevaux. Malgré l'abri fourni par la généreuse frondaison, le soleil de midi tapait dur. Le visage ruisselant de sueur, Mine avait l'impression d'étouffer, malgré la brise qui venait irrégulièrement la rafraîchir un peu. Depuis 15 jours, la petite colonne partie de Lugard chevauchait vers le sud-ouest sous la direction de Siouan, qui affirmait savoir très exactement où elle entendait aller. Sans en dire plus, bien entendu. Enclines à serrer les dents comme si leurs mâchoires étaient des pièges à ours, les deux femmes lâchaient fort peu d'informations. Et de toute façon, Mine n'aurait pas juré que Léane connaissait leur destination. 15 jours. Les villes et les villages se faisant de plus en plus rares, jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Au fil du temps, Loghain s'était de plus en plus avachi, et l'aura avait de plus en plus souvent brillé autour de sa tête. Au début, Loghain avait simplement marmonné qu'il courait après des chimères. Puis il s'était renfermé sur lui-même, laissant sans combattre l'autorité à Siouan. Et depuis 6 jours, il semblait ne même plus se soucier de savoir où ils allaient ni quand ils arriveraient, à supposer qu'ils arrivent un jour. En tête du groupe, Siouan et Léane conversaient, mais trop bas pour que Mine puisse comprendre un traître mot. Et si elle tentait d'approcher, les deux femmes leur donneraient de garder un œil sur Loghain, ou la foudroieraient du regard assez longtemps pour qu'elle comprenne, sauf à être idiote, qu'elle n'avait pas à fourrer son nez dans leurs affaires. De temps en temps, cependant, Léane se retournait sur sa selle pour jeter un coup d'œil à Loghain. Au bout d'un moment, elle laissa sa jument, fleur de lune, décrocher jusqu'à être au niveau de l'étalon noir. Les joues presque exemptes de sueur, Léane semblait insensible à la chaleur. Pour lui laisser de la place, Mine tira sur les rênes de rose sauvage, afin qu'elle s'écarte de l'étalon.
« Nous arriverons bientôt »,
susurra Léane à Loghain, qui ne daigna pas relever la tête. Léane lui prit le bras, s'en servant comme point d'appui pour se pencher vers lui.
« Encore un peu de patience, Daline, et tu tiendras ta revanche. »
L'homme resta prostré sur sa selle.
« Un mort te témoignerait plus d'attention, »
dit Mine, parfaitement sincère. Mentalement, elle prenait note de tout ce que faisait Léane, et elle avait passé toute une soirée à l'interroger. Subtilement, bien entendu. De toute façon, elle aurait été incapable de se comporter comme elle.
Sauf si j'ai vidé assez de coupes de vin pour ne plus être en mesure de penser.
Cela dit, quelques indications judicieuses ne pouvaient jamais faire de mal.
« Si tu l'embrassais ?»
suggéra Mine. Léane lui jeta un regard qui aurait gelé instantanément des chutes d'eau. Mine ne broncha pas le moins du monde. Face à Siouan, et même si leur rapport s'était réchauffé, elle restait très impressionnée. Avec Léane, elle n'avait jamais eu ce problème, enfin beaucoup moins. Et ça s'était encore arrangé depuis qu'elles avaient quitté la Tour Blanche, parlant même d'hommes à l'occasion. Comment être intimidé face à une femme qui lui avait dit, avec une gravité quasi théologique, qu'il existait 107 façons différentes d'embrasser et 93 manières de toucher le visage d'un homme. Et Léane avait l'air d'y croire dur comme fer. Suggérer un baiser n'avait en réalité rien de sarcastique. Depuis le jour où il avait fallu le tirer de ses couvertures, alors qu'il se levait d'habitude le premier pour sonner le réveil du groupe, Léane ne ratait pas une occasion de roucouler à l'intention de Loghain, le gratifiant de sourires qui aurait normalement dû lui faire sortir de la fumée par les oreilles. Léane éprouvait-elle d'authentiques sentiments pour lui, ou entendait-elle le stimuler afin qu'il ne baisse pas les bras, se laissant tout simplement mourir? Si elle ignorait la réponse, Mine doutait fort que l'hypothèse romantique fût la bonne. Connaissant Léane, elle devait vouloir conserver Loghain en vie pour qu'il joue son rôle dans quelques plans imaginés par Siouan. En tout cas, l'ancienne sage-dame à la peau cuivrée ne s'abstenait pas d'user de ses charmes sur d'autres hommes que lui. Apparemment, Siouan et elle s'étaient répartis les tâches. Depuis Lugard, la chair d'Amirline déchue, se chargeait de traiter avec les femmes, et sa compagne avait pris en main tout ce qui concernait les hommes. En deux occasions, ses regards et ses sourires lui avaient permis d'obtenir une chambre dans des auberges que le propriétaire avait prétendu être complètes. Dans les deux cas, et lors de trois autres étapes, Léa avait obtenu une ristourne substantielle sur la note. Sans parler de deux nuits passées dans les granges plutôt qu'à la Belle Étoile. Chaque médaille ayant son revers, les quatre voyageurs avaient dû fuir pour échapper au courroux de la femme d'un paysan armé d'une fourche. Et une autre épouse indignée, un matin, leur avait jeté dessus un bol de bouillie d'avoine fort heureusement froide. Contrairement à ses compagnons, Léane avait trouvé ces incidents très amusants. Depuis quelques jours, cependant, Loghain avait cessé de réagir comme tout mâle qui se trouvait en sa présence plus de deux minutes. À dire vrai, il ne réagissait plus à rien. Aussi insensible que Léane à la chaleur, Siouan tira sur les rênes de Bella si maladroitement et en écartant les coudes qu'elle parut à un souffle de vider les étriers.
« Tu as vu quelque chose de concernant ?»
demanda-t-elle à mine en regardant à peine Loghain.
« Rien n'a changé, »
répondit la jeune femme, toujours aussi patiente. Comme Léane, et malgré des explications maintes fois répétées, Siouan refusait de croire ce que mine disait. Si elle n'avait pas revu l'aura de Loghain depuis cette première fois à Tarvalon, ça n'aurait rien modifié. Si elle avait découvert Loghain gisant dans une rue, prêt à rendre le dernier soupir, mine aurait parié tout ce qu'elle possédait, et même plus que ça, qu'il se rétablirait miraculeusement. Peut-être grâce à l'apparition, à la dernière seconde, d'une Aes Sedai capable de le guérir. Ou un autre événement de ce genre. Ses visions étaient toujours vraies. Elles se réalisaient immanquablement. Dès sa rencontre avec Randall Thor, la jeune femme avait su qu'elle tomberait follement amoureuse de lui et qu'elle devrait le partager avec deux autres femmes. Au sujet de Loghain, elle était catégorique. Il connaîtrait une gloire dont peu d'hommes oseraient seulement rêver.
« Ne prends pas ce ton avec moi. »
dit Siouan, le regard dur.
Il est déjà assez pénible de devoir nourrir à la petite cuillère cette espèce de grosse carpe velue, sans que tu te permettes d'être aussi grognon qu'un martin pêcheur en hiver. Je suis peut-être contrainte de supporter ce type, ma fille. Mais si tu commences à me poser des problèmes, tu ne tarderas pas à le regretter. Me suis-je bien fait comprendre ? Oui, Mara.
Au moins tu aurais pu mettre une touche d'ironie dans ta réponse. Arrête d'être aussi docile qu'une oie. Face à Léane, tu as bien su te défendre, pas vrai ? La Domanie avait suggéré que Mine mette ses cours en application sur le maréchal ferrant du dernier village. Un bel homme, très grand, avec des mains puissantes et un gentil sourire, mais quand même. Bref, elle avait envoyé balader Léane, et elle ne le regrettait pas.
J'essaierai de ne pas bouder, Mara.
Le pire de tout, s'avisa Mine, c'était que ça venait du cœur, l'effet que Siouan faisait à tout le monde. Elle, discuter sur les diverses façons de sourire à un homme, hors de question. En cas de besoin, elle se plantait devant un type, lui disait que faire, et entendait d'être obéie promptement. Bref, la façon dont elle agissait avec tout le monde. Quand elle s'écartait de cette méthode, comme avec Loghain, on pouvait en déduire qu'elle ne jugeait pas l'affaire très importante.
« Ce n'est plus très loin, pas vrai ?»
demanda Léane, de sa voix d'ancienne femme de pouvoir. L'autre, elle la gardait pour les hommes.
« Je le trouve en très mauvais état. Et s'il nous faut camper encore une nuit ? Eh bien, s'il nous aide aussi peu que ce matin, je doute que nous réussissions à le mettre en selle pour repartir. Nous y serons bientôt, si les dernières personnes que j'ai interrogées ne m'ont pas menti. »
Siouan semblait agacée. Au dernier village, elle avait demandé des informations, sans laisser mine entendre, bien sûr, et Loghain n'avait montré aucun intérêt pour ça. Et elle n'aimait pas qu'on y fasse allusion. Pour quelle raison ? Mine n'en savait rien. Siouan ne pouvait quand même pas penser que Laïda était sur leurs talons. La jeune femme espérait aussi que la destination était proche. Depuis qu'ils avaient quitté la tour principale menant à Jeana, jusqu'à quel point avaient-ils dérivé vers le sud ? Ce n'était pas facile à dire, car la plupart des villageois avaient une notion très approximative de la situation géographique de leur bourg. En général, les villes les plus proches étaient tout ce qu'ils avaient en matière de points de repère. Mais lorsqu'ils avaient traversé la rivière Manaterandrel, pour passer en Altara, juste avant que Siouan les entraîne à l'écart de la grande route très fréquentée, le vieux propriétaire du bac était en train d'étudier une carte toute fripée, qui s'étendait jusqu'aux montagnes de la brume. Sauf grossière erreur d'estimation de mine, les voyageurs n'allaient pas tarder à atteindre une autre grande rivière. Peut-être la Boerne, et dans ce cas, ils étaient déjà au Géaldan, où sévissaient le prophète et ses hordes. Ou bien le fleuve Eldar, sur l'autre rive duquel se trouvaient l'Amadicia et ses cohortes de capes blanches. Mine aurait parié sur le Géaldan, prophète ou pas prophète, et c'était une surprise. Surtout s'ils en étaient déjà si près. Pour croire que les Aes Sedai se réuniraient plus près de l'Amadicia qu'il était inévitable, il fallait être frappé de déficience mentale. Et ce n'était sûrement pas le cas de Suan. Que les voyageurs soient au Gealdan ou en Altara, la Madissa ne pouvait pas être si loin que ça.
Bien sûr, il fallait qu'ils subissent maintenant le contre-coup d'avoir été apaisés,
marmonna Suan.
S'ils pouvaient tenir encore quelques jours.
Min ne dit rien. Si cette femme refusait de l'écouter, pourquoi se serait-elle fatiguée à parler? Morose, Suan talonna Bella afin de reprendre la tête de la colonne. Alors qu'elle s'agrippait aux rênes comme si la paisible jument allait se cabrer, Léane eut un sourire amusé, puis elle recommença à cajoler Loghain en usant de toutes les intonations de sa voix spéciale. Au fond, elle avait peut-être des sentiments pour lui. Un choix qui n'aurait pas été plus bizarre que celui de Min elle-même. Dans un paysage forestier qui ne changeait jamais, les fougères qui délimitaient l'ancienne route continuaient à se dérouler en ligne droite. Selon Léane, à l'endroit de la route, la terre était différente, comme si Min était censé savoir ce genre de choses. Perchés sur de hautes branches, des écureuils aux oreilles poilues pépiaient parfois pour saluer les voyageurs. Des oiseaux chantaient également, mais lesquels, Min aurait été incapable de le dire. Comparé à Kemlin, à Théar ou à Ilian, Berlon n'était bien entendu pas une mégalopole. Cela dit, Min se rengorgeait d'être une citadine. Pour elle, un piaf était un piaf, et elle se fichait bien de savoir quel terreau était propice à la pousse des fougères. En chemin, les doutes de Min refirent surface. Après corps les sources, ils avaient commencé à émerger, mais à ce moment-là, les ignorer s'étaient révélés plus faciles. Depuis Lugard, ils revenaient en force. Et Min se surprenait à considérer Suan sous un jour nouveau, et quasiment blasphématoire. Même si elle n'aurait pas eu le courage de s'en ouvrir à Mara, une faiblesse qui lui coûtait de reconnaître, y compris dans l'intimité de ses pensées, elle envisageait que Suan ne sache tout bonnement pas où elle emmenait ses compagnons. Avoir été calmée la délivrant des trois serments, elle pouvait mentir à présent. Espérait-elle, en continuant à chercher, trouver enfin un indice qui la mettrait sur le bon chemin? À sa façon très particulière et dans une mesure assez réduite, Léane avait entrepris de refaire sa vie, sans plus se soucier du pouvoir, de Rand et de la tour. Sans les abandonner tout à fait, bien sûr, mais en prenant nettement sa distance. Pour Suan, Min doutait qu'il existât autre chose. La tour et le dragon réincarné étaient toute sa vie, et elle s'y accrocherait, y compris s'il lui fallait pour ça se mentir à elle-même. Min fut ébahie lorsque la forêt, en un clin d'œil, céda la place à un assez grand village. Des noyers satinés, des chênes et des pins rabougris, le genre d'arbres qu'elle était capable de reconnaître, poussaient à moins de 50 pas de maisons au toit de chaume, bâties avec des galets sur les flancs de petites collines. Pas si longtemps auparavant, Min en aurait mis sa main au feu, la forêt devait occuper toute la zone. De petits bosquets poussaient entre les habitations, s'adossant à leurs murs, et devant l'une d'entre elles, on remarquait des souches qui n'avaient à l'évidence pas encore subi le passage du temps. Pareillement, la terre des rues donnait l'impression d'avoir été fraîchement retournée, rien à voir avec un sol tassé par des générations de semelles. En bras de chemise, des hommes étaient en train de poser du chaume neuf sur trois grands cubes de pierre qui devaient avoir été des auberges. L'un d'eux possédait encore au-dessus de sa porte une enseigne toute miteuse. Mais le chaume usé n'était visible nulle part. Pour le nombre d'hommes visibles, il semblait y avoir beaucoup trop de femmes, et bien trop d'enfants en train de jouer pour tant de mères potentielles. À dire vrai, la seule chose normale en ce lieu, c'était les bonnes odeurs de cuisson qui flottaient dans l'air. Si le premier coup d'œil avait étonné Min, elle faillit tomber de selle lorsqu'elle vit ce qui se trouvait devant elle. Qu'elle soit en train de secouer des couvertures par une fenêtre, ou de s'acquitter d'une autre tâche, les femmes les plus jeunes portaient toutes des robes de laine ordinaire. Mais quel village, grand ou petit, avait jamais abrité tant de femmes en robes d'équitation de soie ou de pure laine? Sans parler des couleurs si diverses et des coupes de toutes sortes. Des auras et des images flottaient autour de ces femmes-là et de la plupart des hommes. Le plus souvent, les gens n'éveillaient rien de tout cela quand Min les regardait. En revanche, avec les Aes Sedai et les champions, une aura apparaissait dans un délai d'une heure au maximum. Les enfants devaient appartenir à des serviteurs de la tour. Si les Aes Sedai qui se mariaient étaient rarissimes, connaissant les sœurs, elles avaient dû faire tout leur possible pour éloigner leurs serviteurs, famille comprise, d'un lieu qu'elles estimaient devoir fuir. Suan avait trouvé ses sœurs fugitives. Alors que les quatre cavaliers y avançaient, un silence irréel régnait sur le village. Immobiles, les Aes Sedai regardaient les nouveaux venus, et les plus jeunes femmes, les acceptées voire des novices, les imitaient en retenant leur souffle. Les hommes qui, un instant plus tôt, bougeaient avec une grâce féline, étaient comme pétrifiés, une main enfoncée dans le chaume ou tendue vers un encadrement de porte, sans nul doute à la recherche d'une arme. les domestiques se chargeaient en silence de faire entrer les enfants à l'abri des maisons. Sous tant de regards fixes, Mine sentit se hérisser les poils de sa nuque. Jetant des coups d'œil en coin aux gens qu'elle dépassait, Léane semblait plutôt mal à l'aise. Imperturbable, le dos bien droit, Siouan avançait sans broncher vers la plus grande auberge, celle qui arborait une enseigne illisible. Mettant pied à terre, elle attacha les rênes de Bella à l'anneau de fer d'un des poteaux de pierre prévus à cet effet, et qui semblait avoir été récemment érigé. Tandis qu'elle prêtait main forte à Léane, qui aidait Loghain à descendre de selle, Siouan ne participait jamais à ces opérations-là, Mine regarda autour d'elle. Tout le monde les observait, et personne ne bougeait.
« Je ne m'attendais pas à être accueillie comme la fille prodigue, »
souffla Mine à Léane.
« Mais quelqu'un pourrait quand même nous dire bonjour. »
Avant que la domanie puisse répondre, s'il en avait l'intention, Siouan grommela.
« Allons, ne cessez pas de ramer alors que le rivage est en vue. Conduisez-le à l'intérieur. »
Sur ces mots, elle entra dans l'auberge, alors que ses deux compagnes guidaient encore Loghain vers la porte. Très docile, il avança, jusqu'à ce qu'elle cesse de l'y inciter, puis s'immobilisa aussitôt. La salle commune ne ressemblait à aucune que Mine n'eût jamais vue. Toute éteinte, bien entendu, les grandes cheminées arboraient des vides là où des briques leur manquaient. Le plâtre du plafond s'émiettait, et des trous gros comme la tête de Mine béaient aux endroits où le lattage était à nu. Sur le parquet rongé par les ans et présentement balayé par un petit détachement de jeunes filles, des tables et des sièges mal assortis étaient disposés sans ordre apparent. Des femmes au visage sans âge y étaient assises. Scrutant des documents ou donnant des ordres à des champions, une poignée portant leur cap caméléon, et d'autres femmes, dont une bonne partie devait être des acceptées ou des novices. Les autres étaient trop âgés pour ça, et il y avait aussi des hommes qui n'étaient visiblement pas des champions. Occupés à apporter des messages ou à servir du vin, ils appartenaient à l'évidence au corps des domestiques en exil. Dans cette ruche humaine bourdonnant d'une activité joyeusement assumée, des auras et des images tournaient autour de têtes que Mine, submergée, dut faire un effort pour ignorer. Se défendre ainsi n'était pas facile, mais elle avait dû apprendre à le faire quand elle s'était trouvée au milieu d'une foule d'Aes Sedai. Gracieuses et divinement sereines dans leur jupe d'équitation, quatre sœurs avancèrent souplement à la rencontre des nouveaux venus. En apercevant ces visages familiers, Mine eut le sentiment d'être enfin de retour chez elle après une longue errance. Sheriam riva immédiatement sur la jeune femme ses yeux verts inclinés. Autour de sa tête nimbée d'une douce lumière dorée, des éclairs bleus et argent zébraient l'air. Une image, certes, mais que Mine aurait bien été en peine d'interpréter. Sa tenue de soie bleue soulignant un peu ses rondeurs, l'ancienne maîtresse des novices aurait pu passer pour la sévérité incarnée.
« Te voir me ferait bien plus plaisir, mon enfant, si je savais comment tu as découvert que nous étions ici, et si je pouvais imaginer pourquoi tu as eu l'idée délirante d'amener cet homme avec toi. »
Main sur la poignée de leur épée, une demi-douzaine de champions s'étaient approchés, le regard braqué sur Loghain, qui ne semblait même pas les voir. Mine en resta bouche bée. Pourquoi lui poser cette question à elle ?
« Mon idée délirante, »
commença-t-elle.
« Il serait tellement préférable, »
coupa Carlinia, une sœur aux joues pâles.
« Qu'il soit mort comme le prétendent les rumeurs. »
Aucune colère dans cette remarque. Appartenant à l'âge à blanc, Carlinia plaça la logique et la raison au-dessus de tout. Cela dit, sa robe couleur ivoire semble avoir traversé des moments difficiles, ces derniers temps. Un instant, Mine vit un corbeau à côté de sa tête. Pas vraiment un oiseau, mais plutôt un dessin qui en représentait un. Un tatouage peut-être, mais dont la signification lui échappait. Se concentrant sur les visages, la jeune femme s'efforça de ne plus remarquer ce qu'il y avait autour.
« Bon, il a l'air plus mort que vif, »
continua Carlinia.
« Quoi que tu aies eu en tête, tu as perdu ton temps. Mais moi aussi j'aimerais savoir comment tu es arrivé jusqu'à Salidar. »
Tandis que l'assaut visant Mine s'intensifiait, Siouan et Léane échangeaient des regards amusés. Absolument personne ne s'intéressait à elle. Sombrement magnifique dans sa robe de soie verte au corsage brodé de fil d'or, Mireille arborait en général un sourire entendu, qui pouvait parfois rivaliser en matière de charme avec les nouvelles mimiques de Léane. Là, elle ne souriait pas, et sa voix sonna comme un glas lorsqu'elle prit la suite de la sœur blanche.
« Réponds, Mine, et cesse de rester la bouche ouverte comme si tu voulais gober des mouches. »
Même parmi les sœurs vertes, Mireille était réputée pour son caractère volcanique.
« Il faut tout nous dire, »
intervint Anaya d'un ton plus conciliant, mais où s'entendait une note d'agacement. Le visage plutôt ordinaire, Anaya, malgré l'intemporalité de ses traits d'Aes Sedai, affichait en permanence une expression maternelle. Pour l'heure, tirant sur le devant de sa jupe gris pâle, elle faisait penser à une mère qui cherche une excellente raison de ne pas se saisir d'une badine.
« Nous vous recueillerons, toi et les deux autres filles, mais tu dois nous dire comment tu es arrivée jusqu'ici. »
Mine s'ébroua et serra fermement les dents. Bien sûr, ça tombait sous le sens. Les deux autres filles. À force d'être avec elles, Min avait oublié à quel point Léane et Suan étaient différentes. Et parmi ses sœurs, aucune ne les avait ne serait-ce qu'aperçues depuis qu'on les avait jetées dans une geôle de la Tour Blanche. Alors que Léane semblait sur le point d'éclater de rire, Suan eut une moue dégoûtée à l'intention des quatre Aes Sedai.
« Je ne suis pas la femme à qui vous voulez parler, »
dit Min à Shiryam.
« Autour des deux autres filles d'être le centre de l'attention pour changer. Interrogez plutôt Suan ou Léane. »
Regardant d'abord Min comme si elle était folle, les quatre Aes Sedai ne semblèrent guère plus avancées lorsqu'elle leur désigna ses deux compagnes. À l'évidence, elles ne les reconnaissaient pas. Leurs champions continuèrent à surveiller Loghain et gardèrent la main sur la poignée de leur arme.
« Être calmé peut avoir cet effet, »
dit enfin Myrel.
« J'ai lu des rapports qui faisaient allusion à ce phénomène. »«
Les visages correspondent sur bien des points, »
ajouta Shiryam.
« Bien sûr, quelqu'un peut avoir trouvé deux femmes qui ressemblent à Suan et à Léane. Mais pourquoi faire ?»
La chair d'Amirline et la gardienne déchue semblèrent trouver la plaisanterie un peu longue.
« Nous sommes qui nous sommes. Nous sommes qui nous disons être, »
grogna Léane.
« Interrogez-nous. Tes sosies ne pourraient pas savoir ce que nous savons. »
Suan n'attendit pas qu'on lui pose des questions.
« Mon visage a changé, mais au moins, je sais ce que je fais et pourquoi. On dirait que ce n'est pas le cas de tout le monde ici. »
Min fit la grimace devant tant d'agressivité, mais Myrel hocha vigoureusement la tête.
« C'est bien la voix de Suan. »« Oui, mais une voix peut s'imiter, »
objecta Carlinia, toujours froidement logique.
« En revanche, les souvenirs, eux, ne se contrefont pas, »
dit Anaya.
« Suan, si c'est bien toi, le jour de ton 22e anniversaire, nous avons eu une polémique, toi et moi. Où cela s'est-il passé, et quel en fut le résultat ?»
Suan sourit à la sœur si délicieusement maternelle.
Pendant un cours dispensé aux acceptés, tu as évoqué les nombreuses nations issues de l'empire d'Arthurel de Faucon après sa mort, qui n'ont pas réussi à survivre. Accessoirement, je ne suis toujours pas d'accord avec certaines de tes conclusions. Le résultat ? Deux mois à passer 3 heures par jour à récurer des chaudrons aux cuisines, avec l'espoir que la chaleur des fours fera fondre ton ardeur, as-tu dit, si ma mémoire ne me trompe pas.
Si Suan pensait qu'une seule bonne réponse suffirait, elle se trompait. Anaya posa d'autres questions, adressées aux deux femmes, et Carlinia et Shiryam, qui avaient apparemment été novices puis acceptées avec les deux revenantes, se mirent aussi de la partie. Aucun double n'aurait pu savoir ces choses-là. Des mésaventures de jeunes filles, des farces réussies ou non, les opinions qui dominaient sur telle ou telle Aes Sedai chargée de la formation. Min eut du mal à croire que deux femmes destinées à devenir la chair d'Amerline et la gardienne des chroniques aient pu s'embarquer si souvent dans des aventures plus ou moins grotesques. Mais à l'évidence, ce n'était que la partie visible d'une montagne ensevelie, car Shiryam elle-même ne semblait pas avoir été beaucoup plus sérieuse qu'elle. De loin la plus jeune, Myrel se confina à des commentaires amusés, jusqu'à ce que Suan mentionne une truite introduite dans le bain de Saroya Sedai, et une novice qui avait subi en conséquence 6 mois d'impitoyable rééducation en bonne manière. Non que Suan eût des leçons à donner en la matière. N'avait-elle pas lavé avec une ortie urticante les sous-vêtements d'une acceptée qui n'avait pas eu l'heure de lui plaire? Ne s'était-elle pas, encore novice, éclipsée de la tour pour aller pêcher? Sauf à certaines heures, les acceptées elles-mêmes avaient besoin d'une autorisation pour sortir. Ensemble, Suan et Léane avaient fait refroidir un seau presque assez pour que l'eau gèle, puis l'avaient placé de manière qu'il arrose une Aes Sedai, coupable selon elle de les avoir fait fouetter sans raison. Voyant la lueur qui passa dans le regard d'Anaya, Min déduisit qu'elles avaient eu beaucoup de chance de ne pas être démasquées sur ce coup-là. D'après ce que Min savait sur la formation des novices et des acceptés, les deux complices pouvaient se féliciter d'avoir ainsi évité de se faire expulser comme des malpropres de la tour.
« Je suis satisfaite, »
finit par dire Anaya, tout en consultant ses compagnes du regard. Shiryam acquiesça et Myrel l'imita.
« C'est bien beau, »
fit Carlinia.
« Mais ça ne nous dit pas ce que nous allons faire d'elle. »
Voyant qu'elle regardait Suan, les trois autres parurent soudain mal à l'aise. Alors que Myrel faisait la moue et qu'Anaya s'abîmait dans la contemplation du sol, Shiryam se concentra sur les plis de sa robe, un bon prétexte pour ne pas regarder les quatre nouveaux venus.
« Nous n'avons rien oublié, »
intervint Léane, qui paraissait pour la première fois vaguement inquiète.
« Nous vous serons utiles. »
Alors que l'ancienne gardienne s'était amusée de leur récit de jeunesse, Suan n'avait à aucun moment apprécié l'exercice, et son air morose en témoignait sans équivoque. Pourtant, elle parla d'un ton modérément agacé.
« Vous voulez savoir comment nous vous avons trouvé ? J'ai pris contact avec un de mes agents, qui travaille aussi pour l'Âge Bleu. Et c'est comme ça que j'ai su pour Sali Daera. »
Min ne comprit pas l'allusion à cette Sali Daera, et d'abord de qui s'agissait-il ? Mais Shiryam et les trois autres se regardèrent en hochant la tête. Siouan ne venait pas seulement de leur apprendre comment elle les avait retrouvés. Au passage, elle leur avait fait savoir qu'elle était toujours en contact avec le réseau qui était à son service, lorsqu'elle dirigeait les Aes Sedai.
« Va t'asseoir là-bas, Min !»
dit Shiryam en désignant une table inoccupée dans un coin.
« Ou faut-il encore t'appeler Elmin Dreda ? Et garde Logain avec toi !»
Les quatre Aes Sedai entraînèrent Siouan et Lehan vers le fond de la salle commune. Deux autres femmes en tenue d'équitation les rejoignirent et franchirent avec elles une porte dont le battant neuf était composé de planches brutes. Avec un soupir, Min tira Logain par le bras, le guida jusqu'à la table, le fit asseoir sur un banc et prit place elle-même sur une chaise à dossier en échelle. Deux champions vinrent se camper non loin de là, s'adossant à un mur. Ils ne semblaient pas surveiller Logain, mais Min avait appris à ne pas se laisser duper par les champions. Dotés d'un œil d'aigle, ils étaient capables de dégainer leur épée à la vitesse de l'éclair, même en dormant. Ainsi, il n'y aurait pas d'accueil à bras ouverts, même si Siouan et Lehan étaient identifiés. En un sens, quoi d'étonnant. Après avoir été les deux femmes les plus puissantes de la Tour Blanche, elles n'étaient même plus des Aes Sedai. À n'en pas douter, les autres ne savaient pas comment se comporter avec elles. De plus, elles arrivaient avec un faux dragon apaisé. Si elle avait vraiment un plan pour lui, comme elle le prétendait, Siouan avait intérêt à se montrer plus précise. Car Shiryam et les autres, face à des atermoiements, seraient sûrement beaucoup moins patientes que l'avait été Logain. Au moins, Shiryam avait reconnu Min. Se levant, la jeune femme alla jeter un coup d'œil dans la rue, à travers une fenêtre à la vitre fendue. Leurs chevaux étaient toujours attachés devant l'auberge, mais un des champions qui ne surveillait personne l'aurait interceptée avant même qu'elle ait dénoué la bride de Rose Sauvage. Durant son dernier séjour à la tour, Siouan n'avait lésiné sur rien pour la déguiser. En vain, à l'évidence. Cela dit, aucune de ses Aes Sedai ne devait être au courant pour ses visions, et elle s'en félicitait. Si elle découvrait la vérité, elle tenterait de s'assurer d'elle, comme Siouan l'avait fait, et elle ne rejoindrait jamais Rand. Et si on la retenait ici, comment pourrait-elle mettre en application les précieux conseils de Lehan ? Aider Siouan à trouver ce village et contribuer à rallier les Aes Sedai à Rand était important, certes, mais elle poursuivait toujours un objectif personnel, faire en sorte qu'un homme, alors qu'il ne l'avait jamais vraiment regardé, tombe amoureux d'elle, avant de devenir fou. Au fond, elle était peut-être aussi cinglée qu'il était destiné à le devenir.
« Comme ça, nous ferons un beau couple, »
marmonna-t-elle. Alors qu'elle était retournée s'asseoir, une fille aux yeux verts et aux innombrables taches de rousseur vint se camper devant la table de Min.
« Voulez-vous quelque chose à boire ou à manger ? Nous avons du gibier au sang et des poires sauvages. Un peu de fromage aussi. »
À force de tout tenter pour ne pas regarder Logain, la pauvre novice aurait tout aussi bien fait de ne pas le quitter des yeux.
« Des poires et du fromage, ce serait parfait, »
répondit Min. Les deux derniers jours, l'ordinaire n'avait pas été bien formidable. Siouan avait réussi à pêcher quelques poissons dans un cours d'eau, mais avant de mal tourner, Logain se chargeait de la chasse, les soirs où il ne dînait pas dans une auberge ou chez un paysan. Et des haricots secs ne faisaient pas un repas sérieux, selon la jeune femme.
« Avec un peu de vin, s'il y en a. Mais d'abord, j'ai une question. Où sommes-nous, si ce n'est pas un secret ? Ce village s'appelle bien Salidar. » « Oui, nous sommes en Altara. Le fleuve Eldar est à environ un quart de lieue à l'ouest. »
La novice s'essaya à une pâle imitation d'antique et mystérieuse sagesse d'Aes Sedai.
Quel meilleur endroit pour se cacher qu'un lieu où personne n'aurait l'idée de vous chercher ?
Sauf que nous ne devrions pas avoir à nous cacher. »
lança en approchant une jeune femme aux courts cheveux noirs bouclés. Min reconnut une acceptée nommée Faolain. Une surprise de la trouver là, vraiment. Très froide et sans amis, pour ce que Min en savait, Faolain ne cachait pas son intention de rejoindre l'âge à rouge lorsqu'elle aurait reçu son châle. En d'autres termes, elle aurait dû être une chaude partisane d'Elaïda.
Pourquoi es-tu venue ici, avec cet homme ? Et pourquoi est-elle venue ?
Min n'eut pas besoin de demander à qui l'acceptée faisait allusion.
Si nous devons nous cacher, c'est sa faute. J'ai refusé de croire qu'elle avait aidé Mazrim Taïm à s'échapper. Mais depuis que je l'ai vue avec celui-ci...
Elle désigna Logain.
J'ai de sérieux doutes. Faolain, tu en as assez dit.
Lança à l'accepter une mince femme à la très longue crinière brune. Min connaissait cette Aes Sedai, en robe d'équitation couleur de vieil or. Et Edesina, une sœur jaune.
Retourne à ton travail,
ajouta Edesina.
Et si tu avais l'intention de servir à table, c'est Tabia qui s'en chargera.
Et Edesina n'accorda aucune attention à la révérence de Faolain, avant de s'éclipser la novice en fine plus gracieuse, mais posa une main sur la tête de Logain, qui ne sembla pas s'apercevoir qu'on le touchait. Min vit soudain apparaître autour du cou de l'Aes Sedai un collier d'argent qui sembla aussitôt se briser. Détestant toutes les visions liées au Céan Chanien, la jeune femme frissonna. Mais au moins, d'une façon ou d'une autre, Edesina réussirait à se libérer. En revanche, Si elle avait prévenu d'Aes Sedai, prenant le risque de se dévoiler, ça n'aurait strictement rien changé à ce qui l'attendait.
« C'est le fait d'avoir été apaisé, »
dit Edessina.
« Il n'a plus aucune volonté de vivre, je suppose. Je ne peux rien pour lui. Et dans le cas contraire, je me demande si je devrais intervenir. »
En partant, la sœur jaune coula à mine un regard qui n'avait rien d'amical. Un peu plus tard, une sculpturale femme en robe de soie ocre s'arrêta non loin de la table et, impassible, étudia longuement mine et Loghain. C'était une Aes Sedai verte, Kiruna, connue pour son port de reine. Rien de surprenant lorsqu'on était la sœur du roi d'Arafel. À la tour, Kiruna avait été assez gentille avec la jeune femme, mais là, elle ne semblait pas la reconnaître. Reprenant son chemin, elle sortit de l'auberge, quatre champions dans son sillage. Des hommes très différents les uns des autres, n'étaient la grâce mortelle de leurs mouvements. En attendant son repas, Min espéra que Siouan et Léane recevaient un accueil plus chaleureux.